des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui, en ce lendemain d'élection, Dave Noël, dans sa chronique « Les actualités de l'histoire », explique pourquoi François Legault a raison de parler de l'élection de 2002 comme une élection historique quant au nombre de femmes au Parlement. Il remet ensuite en perspective le taux de participation d'hier, 10 ans après le printemps érable. Le sursaut démocratique observé à l'époque apparaît comme un faux espoir. Enfin, il explore les quelques victoires écrasantes du passé pour les comparer à celles de François Legault d'hier. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Rémi Nadeau.
Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
Antoine Robitaille.
On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm-hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
La rencontre.
Un jour, on fera notre débat.
Oui, bien sûr.
Métal sur métal.
C'est le moment de vérité.
La rencontre. Nadeau Robitaille.
Mais bonjour, Rémi Nadeau.
Bonjour Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. Distorsion du mode électoral uninominal à un tour. Penses-tu qu'on va avoir une grosse réforme?
Ben non. Monsieur Legault, malgré la distorsion qui est critiquée, qui est exprimée de peu partout là, aujourd'hui.
Et qui est visible, mettons...
À l'œil nu.
Fortement. C'est qu'il crève les yeux, voilà, c'est ça que je cherchais, ça crève les yeux.
Exactement. Alors écoute, M. Legault a fermé à double tour et pour rappeler donc aux gens, avec les résultats du vote exprimé lundi, ben la CAQ a 90 sièges avec 41% des voix, là, presque 42 si on arrondit. Le PLQ avec Dominique Anglade, 21 sièges, à peu près 15%. À peu près 15% du suffrage, Québec solidaire a seulement 11 députés. Le Parti québécois a 15% aussi, mais n'a que 3 députés. Et le Parti conservateur, à 13%, a 0 députés. Bon, alors c'est sûr que là, on entend beaucoup, notamment les conservateurs, mais aussi les sympathisants péquistes et d'autres formations, qui disent, ben coudonc, est-ce que mon vote vaut quelque chose puisque malgré là, un assez fort pourcentage de votes exprimés, il n'y a pas de, par exemple pour les conservateurs, il n'y a même pas un seul représentant du parti qui va faire son entrée à l'Assemblée nationale. Éric Duhaime, on le sait, a perdu dans Chauveau contre Sylvain Lévesque et dans Beauce-Nord et Beauce-Sud, ça a été très serré, mais finalement, par quelques centaines de voix là, des deux bords, ce sont les caquistes sortants qui ont été réélus. Bref, M. Legault a été questionné à son point de presse donc de lendemain de la soirée électorale, comme le veut la tradition. Il est allé sur l'île d'Orléans.
Il est allé loin.
Oui, il est allé loin. Je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi. Cette affaire-là.
Oui, il cherche dans ce temps-là. Je me rappelle qu'en 2018 aussi, il avait été...
Au Musée de la Civilisation, non?
Ouais, c'est ça, au parc, c'était dans un parc. En tout cas, je sais qu'on dirait qu'on cherche à avoir une belle image derrière M. Legault, une espèce de beau panorama. Alors là, c'était sur l'île d'Orléans, et puis là, la question lui était posée. Et ce qui est drôle, c'est qu'il dit, que durant la campagne, il s'est engagé à ne pas ouvrir le débat sur le mode de scrutin, et que donc, il va respecter ses engagements.
Est-ce que cette promesse-là vaut plus que la promesse de réformer le mode de scrutin? Faites solennellement 2018.
Oui, c'est ça exactement. C'est ça que j'allais dire. C'est ça qui est ironique. C'est que avant la campagne électorale de 2018, il s'était engagé avec les autres partis d'opposition. Puis finalement, il n'a pas tenu cet engagement-là. La seule chose
d'ailleurs, Rémi, on a l'extrait. C'est vraiment incroyable parce qu'il parle de cynisme. Il dit de la nécessité d'écouter les citoyens. On peut écouter l'extrait.
Oui, écoutons ça.
On a besoin que le plus de personnes possibles travaillent ensemble. Je pense que le mode de scrutin proportionnel mix aide justement à ce qu'on travaille davantage ensemble, que ce soit possible de le faire, qu'il n'y ait pas un gouvernement qui ait été élu par une minorité de Québécois qui soit capable de prendre des décisions pour une majorité. Donc, moi, je pense que ça va dans le sens, à long terme, du mieux-être des citoyens québécois. Nous, on est prêts, puis on va faire le changement. C'est important de le faire. C'est important de ne pas regarder les gains à court terme. Il y a une pression populaire qui n'était peut-être pas là il y a 10 ans, il y a 20 ans. De plus en plus, les citoyens sont informés. De plus en plus, les citoyens veulent participer, même s'ils s'intéressent moins entre les élections à la politique. Il reste que quand même, les gens veulent être représentés, veulent participer aux décisions. Puis c'est une façon de le faire. Donc, moi, je pense qu'un gouvernement qui ne respecterait pas cette volonté-là des citoyens se retrouvait en difficulté à moyen terme.
Oui, alors, c'était François Legault en 2018 lorsqu'il a signé le pacte tripartite de trois partis là, pour le changement du mode de scrutin. Et il disait qu'un gouvernement qui ne respecterait pas cette volonté-là, ben, il se trouverait en difficulté à moyen terme, Rémi.
Et pourtant, c'est pas ce qui est arrivé. Ils ont déposé seulement un projet de loi avec Sonia Lebel, puis après ça, ils ont laissé ça sur les tablettes.
Mais ce qui est intéressant, c'est que si on utilise ce projet de loi-là, parce que des modes de scrutin là, à proportionnel, il y en existe mille et une sortes, mille et une formules. Puis la formule qui avait été arrêtée pour le projet de loi 39, si on met les résultats non seulement d'hier, mais aussi de 2018 dedans, bien, la CAQ est quand même majoritaire. Donc, c'est un mode de scrutin qui ne fait pas nécessairement des gouvernements fragiles.
Oui, c'est ça exactement. Parce que la crainte de certaines personnes, si, par exemple, c'est uniquement un scrutin proportionnel, c'est de se retrouver avec des gouvernements minoritaires à répétition. Puis là, on dit, ben là, c'est dur de gouverner. Comment est-ce possible pour l'État, par exemple, d'apporter des changements en profondeur s'il n'y a pas suffisamment, donc, s'il n'y a pas une force suffisante là, qui gouverne. Mm. Mais je prends, par exemple, le mode qui est un peu comme calqué selon ce qui était présenté dans le projet de loi de Sonia Lebel, mais légèrement modifié par le groupe ou le mouvement Démocratie Nouvelle de Jean-Pierre Charbonneau. Et la CAQ aurait quand même eu 67 sièges, mais la grosse différence, c'est que bon, Québec solidaire en aurait eu 16, le PQ en aurait eu 14, imagine-toi donc, PLQ 14 et le Parti conservateur 14. Donc, ça aurait complètement changer la dynamique. Mmh. Moi, je comprends évidemment Éric Duhem d'être frustré par rapport à ça, les péquistes aussi. Dans le cas d'Éric Duhem, c'est quand même particulier parce que tu sais que c'est à cause que Claire Samson avait choisi de joindre la formation que Éric Duhem pouvait tenir, par exemple, un point de presse à l'Assemblée nationale.
Oui. Parlementaire qui invite.
C'est ça, exactement. Mmh. Mais là, sans aucun député donc élu, il peut même pas faire un point de presse à l'Assemblée nationale.
Ce qui va l'amener à faire une cour en règle à tous les déçus de tous les partis. N'importe qui. Moi, je pense qu'il est prêt à prendre un transfuge, même de Québec solidaire. Il faut absolument qu'il y ait quelque chose comme un élu.
Oui. Alors, tout ça pour dire que donc, c'est sûr que, tu sais, moi, je m'étais rangé un peu aussi à l'argument de la stabilité dans le passé, mais on voit là, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et,
oui, mais Rémi, si on est capable d'avoir la stabilité et la représentation, ben c'est parfait. Alors, il s'agit de jouer avec le modèle, puis le modèle qui est proposé dans le projet de loi 39, c'est une bonne base. Au moins, la CAQ aura fait avancer ce débat-là qui traînait depuis des années. Espérons là, que ça sera repris.
Voilà.
Le PLQ maintenant, les nouvelles sont bonnes parce qu'ils gardent l'opposition officielle, mais ça cache et ça occulte de mauvaises nouvelles.
Ah, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Ben, outre le fait qu'ils sont restés à l'opposition officielle, ils ont quand même perdu des sièges. Mais ils en ont perdu quand même, je pense, moins que ce qu'on pensait peut-être là, à quelques jours du vote. Mais bon, il y a eu des pertes, notamment par exemple Vertun, où Isabelle Melançon a vraiment tout fait, déployer beaucoup d'énergie pour conserver son poste, mais sans succès. Ils ont perdu, bon, par exemple, Maurice Richard, ce type de circonscription-là. Mais en plus, c'est que comme le suffrage exprimé a diminué de façon importante, ben ils vont recevoir moins d'argent en raison là, de l'appui qui a été exprimé. Notre collègue Patrick Bellerose, regardez ça, c'est 10% de moins qu'ils vont recevoir donc en revenus par rapport à cette équation-là, là, du montant de 1,70$, 1,71$ en fait, qui est versé par vote exprimé. Mais en plus de ça aussi, et ça c'est catastrophique, on se disait que avoir les chiffres dans les circonscriptions d'appui, ouais. on voyait que à bien des endroits, il n'y avait pas 15%. Quand t'as pas 15%, le candidat perd son dépôt financier. Alors, il n'y a pas de remboursement de son dépôt pour ses dépenses électorales. Et le nombre de circonscriptions où il n'y a pas le 15%, écoute, c'est 87.
Ouch!
Oh, alors mal, ça fait très mal. En 2018, tu sais, déjà, on disait que c'était épouvantable, le score du Parti libéral. Ils avaient eu 25% du suffrage en 2018. Et à ce moment-là, c'est une trentaine de candidats qui n'avaient pas récupéré leur dépôt. Mais là, 87, imagine, c'est vraiment catastrophique parce que, tu sais, déjà, on l'a vu à quel point ils ont eu du mal à recruter. Il a fallu que des employés de la garde rapprochée de Dominique Anglade présentent leur candidature dans des comtés là, comme à Québec parce qu'il n'y avait pas de candidat. Mais ça, c'est...
J'ai cru voir hier que Julie White, par exemple, dans Jean Talon, un comté qui est un château fort libéral, là, est arrivée comme quatrième, si je ne m'abuse.
Oui, et c'est hallucinant de voir à quel point il y a beaucoup de circonscriptions où il termine cinquième, le Parti libéral du Québec. Et d'ailleurs, je veux juste souligner parce que ça m'a vraiment fait sourire. J'ai vu mon chef des régies accorder une entrevue à Mario Dumont à LCN plus tôt dans la journée.
Oui.
Et M. Dumont faisait remarquer là ces statistiques là désolantes pour le PLQ dans plusieurs régions du Québec. Et mon chef des régies a répondu en disant que Montréal aussi c'est une région. C'est l'argument, là, c'est le dernier argument qui peuvent servir.
Oui, c'est comme genre le dernier argument, effectivement. Tu veux souligner que le clan des journalistes et chroniqueurs s'agrandit à la CAQ?
Oui, ben oui.
C'est un parti de journalistes ou non?
En terminant, c'est particulier parce qu'on a l'impression qu'ils pourraient faire un cercle de presse. Moi, quand j'étais jeune journaliste au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Le cercle de presse du Saguenay, mesdames et messieurs.
Oui, c'est
ça. De la CAQ.
C'était les journalistes de tous les médias de la région qui étaient regroupés pour recevoir, par exemple, une personnalité qui était de passage dans la région. Mais donc, c'est ça. Écoute, on sait qu'il y avait déjà plusieurs chroniqueurs, journalistes au sein des élus de la CAQ, comme Mario Asselin, Sylvain Lévesque, Caroline Proulx qui a fait de la télévision, Nathalie Roy, Mathieu Lacombe. Et là, il faut rajouter à ça, d'un coup, Karianne Bourassa, qui a été élu pour la CAQ dans Charlevoix. Il y a Pascal Derry, également ancienne journaliste. Et là, il faut rajouter Bernard Drainville, Martine Biron.
La FPJQ au pouvoir, Rémi.
Oui, c'est ça exactement. Écoute, je me rappelle d'avoir parlé avec un de nos anciens collègues qui a fait le saut en politique active et qui me disait, il y a deux choses. C'est sûr que les partis aiment le fait que les journalistes ou des animateurs ou chroniqueurs ont une facilité à communiquer. Donc, on présume qu'ils ont moins tendance à se mettre les pieds dans les plats parce qu'ils sont un peu plus habiles avec la communication, ces choses-là. Ils sont peut-être plus clairs pour exprimer des messages clairs aux citoyens. Mais l'autre chose, et ça, j'avoue que c'est vrai, il me disait, les journalistes, on est habitués de faire un travail d'analyse, là, de documents et de synthétiser beaucoup d'informations. On est capable, d'absorber beaucoup d'informations dans des documents, des projets de loi, des choses comme ça, des rapports annuels, les budgets, etc. Et après ça, être capable de synthétiser, voir qu'est-ce qui est important. On me dit que c'est une qualité qui est recherchée dans les candidats. Il y a la façon de s'exprimer, mais aussi le fait d'être habile aller, par exemple, saisir des choses, des fois un peu complexes, et être capable de voir qu'est-ce qui est important là-dedans. Alors, à la CAQ, ils auront donc beaucoup d'expertise en cette matière-là.
Merci beaucoup, Rémi. Et puis, demain, on aura recours à ton expertise encore une fois. Tu viendras nous expliquer des choses compliquées. Salut, Rémi. À demain.
Salut.